Colas Feldman, midi 10 à Paris. C'est la fin de ce journal dans un instant.
Merci beaucoup RFI pour ce journal. Il est midi 10 également à Bordeaux et vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes. Les militantes et militants de la Ligue des droits de l'homme se retrouvent à Bordeaux ce week-end pour leur 92e congrès. À cette occasion, on reçoit nous aujourd'hui deux membres bordelais de la LDH. On va faire le point avec eux sur comment se porte la LDH et surtout on va discuter d'une question cruciale du moment qu'ils et elles se posent, comment lutter contre l'extrême droite, question qui sera à l'ordre du jour de ce congrès et nous on en discute également avec l'auteur d'une enquête sur l'électorat de l'extrême droite. On commence avec quelques autres informations en bref. Aujourd'hui, 15 mai, les Palestiniens commémorent la Nakba. La Nakba, c'est la catastrophe en arabe et ça désigne l'exode palestinien de 1948, la défaite des pays arabes contre Israël et la fuite de 700 000 Palestiniens, la destruction de centaines de villages à l'époque. Pour l'historien Ibrahim Matar, interrogé par RFI, ce qu'ils ont fait en 1948 se répète aujourd'hui à Gaza. Ils détruisent des maisons. En 2021, l'ONU recensait 4,7 millions de réfugiés palestiniens vivant dans des camps dans les pays arabes voisins. Alors aujourd'hui, à Bordeaux, le collectif Fraternité France-Palestine 33 appelle à un rassemblement pour commémorer cet événement qui aura lieu place Péberlan à 18h30 aujourd'hui donc. Et puis par ailleurs, signalons que dans la nuit de lundi à mardi, à Paris, le mémorial de la Shoah a été vandalisé. Des mains rouges ont été peintes sur le mur du monument, sur lequel figurent les noms de 3900 hommes et femmes ayant contribué à sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Hier, mardi, c'était justement la commémoration de la rafle du billet vert. Le 14 mai 1941, 3700 Juifs de la région parisienne étaient arrêtés puis déportés, préfigurant la rafle du Vel Div. Hier, c'était aussi la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes. Elle a été marquée par la présence uniquement de femmes sur scène. La libération de la parole des femmes se poursuit avec toujours de nouveaux témoignages de violences sexuelles. Le dernier en date, c'est l'ancien producteur Alain Sard, accusé de viol et agression sexuelle par 9 femmes. Le collectif 50-50 note de son côté que la place des réalisatrices dans la programmation du Festival de Cannes est en léger recul. Seulement 29% des films sélectionnés cette année ont été réalisés par des femmes, contre 31% l'année dernière. Et ce chiffre, il est tiré vers le haut par les sélections secondaires, tandis que la sélection principale, la sélection officielle du Festival de Cannes, ne compte, elle, que 20% de réalisatrices. Enfin, dimanche, nos confrères de Radio France étaient en grève pour défendre la liberté d'expression. On savait déjà que les émissions La Terre au Carré, C'est bientôt demain sur France Inter, également Nohou et Vert de Rage sur France TV allaient être supprimées. C'est maintenant l'émission Planète Bleue diffusée sur France Bleu dont on apprend la suppression. Et cela alors que les parlementaires examinent depuis hier le projet de fusion entre Radio France et France TV avant une discussion à l'Assemblée nationale qui aurait lieu les 23 et 24 mai prochains sur ce sujet. Jour où les salariés de Radio France appellent à la grève. Et c'est aussi à nous, public, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices du service public de l'information, de les soutenir et d'essayer d'empêcher cette destruction. Midi 13 à Bordeaux, je le disais, ce week-end se tiendra à Bordeaux le 92e congrès de la Ligue des droits de l'homme. L'occasion pour nous de revenir sur cette organisation fameuse, centrale quand même en France et à gauche. Organisation fondée en 1898 dans le cadre de l'affaire Dreyfus. Par quelqu'un qui était d'ailleurs à l'époque sénateur de la Gironde et qui fut l'instigateur de la révision du procès du capitaine Dreyfus, il s'agissait de Ludovic Trarieux. 126 ans plus tard, la Ligue des droits de l'homme continue de défendre les droits humains, notamment les libertés individuelles et collectives. Pour en parler, j'accueille Manuel Diaz-Vaz. Bonjour Manuel.
Bonjour.
Tu es coprésident de la Fédération de Gironde de la LDH et vice-président de la section de Bordeaux. Tu vas être rejoint dans une poignée de minutes par Pierre-Antoine Cazot, qui est coprésident de la Ligue des droits de l'homme de Bordeaux et qui arrive bientôt dans nos studios. Nous sommes également au téléphone avec Félicien Faury. Bonjour Félicien.
Bonjour.
Tu es sociologue et politiste, auteur d'une enquête sur la normalisation de l'extrême droite. Ça s'appelle « Des électeurs ordinaires » et c'est paru au Seuil. Et on sera avec toi plutôt en deuxième partie d'émission pour parler de cette question de l'extrême droite. On commence, Manuel, en disant un mot de la LDH et de comment se porte la LDH. Il y a un peu plus d'un an, en avril 2023, Gérald Darmanin menaçait de retirer à la LDH toute subvention publique. C'était après la manifestation contre les méga-bassines de Sainte-Soline, sur laquelle la LDH avait envoyé des observateurs et rédigé un rapport accablant sur l'attitude des forces de police et de gendarmerie sur place. Ça avait déclenché une levée de boucliers, un appel « Ne touchez pas à la LDH » signé par des centaines de personnalités. Comment se porte la LDH un an plus tard, Manuel Dias ?
La LDH est de plus en plus forte dans la mesure où les questions qui nous animent et sur lesquelles nous nous sommes positionnés depuis plus d'un siècle sont de plus en plus d'actualité. Nous vivons dans une société où la peur, effectivement l'État autoritaire et en même temps la menace permanente des droits sociaux et des droits tout court, est en train effectivement de s'effriter. Depuis cette attaque contre notre existence et en même temps contre les valeurs que nous défendons, nous avons vu nos adhérents multiplier, nous avons plus de 20% de plus de nouveaux adhérents, ce qui a permis effectivement de requinquer et en même temps d'ouvrir un peu plus la Ligue des droits de l'homme sur la société. Et nous avons à cette occasion accueilli un nombre assez impressionnant de jeunes qui ont effectivement voulu témoigner par leur adhésion, leur attachement aux droits humains et au combat pour la liberté.
Ça veut dire au final que ces menaces, ces attaques de Gérald Darmanin vous ont renforcé ?
Nous pouvons lui dire merci à cet abruti qui nous a effectivement fait de la publicité. Nous avons également, à cette occasion, démontré quels étaient à la fois les engagements, les convictions et en même temps les valeurs fondamentales sur lesquelles nous sommes présents, à la fois en France, en Europe et dans le monde, parce que la Ligue des droits de l'homme, elle est présente dans 152 pays dans le monde. Et notre combat est un combat universel. Notre combat, et de toute manière, le combat pour les droits est un combat qui n'a pas de frontières.
Alors, on va tout de suite dire un petit mot quand même de ce congrès. Donc, c'est samedi, dimanche, lundi que se tient ce congrès donc national de la Ligue des droits de l'homme. C'est un rendez-vous des militants, militantes, adhérents, adhérentes de la LDH, mais aussi avec une partie qui est ouverte au public. Ça commence, je crois, vendredi avec une table ronde, un village des libertés le samedi, des expositions aussi. C'est là aussi, Manuel, un moyen de continuer à s'ouvrir et de parler, faire parler, faire connaître la Ligue des droits de l'homme ?
Nous, à Bordeaux et en Gironde, en accueillant ce congrès, nous n'avons pas voulu faire un événement fermé. Nous avons voulu faire un événement ouvert à la société, ouvert au public. Donc, premièrement, le 17 mai, à 19h, à la Halle des Douves, nous allons organiser une table ronde avec des personnalités sur le thème « Sommes-nous toujours en démocratie ?» avec un point d'interrogation. Moi, j'aurais tendance à dire que le point d'interrogation est de moins en moins pertinent parce qu'effectivement, nous ne sommes plus en démocratie. Aujourd'hui, la manière dont notre pays est gouverné est très inquiétante. Le samedi, toute la journée, sur la place de la Victoire, nous allons faire un village associatif, qui est le village des droits et des libertés, pour permettre d'abord à tous ceux avec lesquels nous travaillons au quotidien, ici sur la place de Bordeaux et sur la Gironde, de pouvoir venir partager avec nous et en même temps organiser un agora des droits, un moment, effectivement, en débat avec le public, il y a ce qui se passe dans le congrès et puis il y a ce qui se passe à côté du congrès et à mon avis et à notre avis, ce qui se passe en parallèle est aussi important que ce qui se passe à l'intérieur de la salle de congrès.
Et d'ailleurs, la Clé des Ondes sera présente lors de ce village.
La Clé des Ondes sera présente avec des dizaines d'autres associations avec lesquelles nous partageons le combat pour les droits et nous partageons les mêmes valeurs. Donc c'est l'occasion également pour nous tous de réfléchir ensemble et de créer une nouvelle dynamique, parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui rester enfermés sur un sentiment d'échec ou certainement un sentiment d'impuissance. Parce que s'il y a quelque chose dont je suis observateur, presque à 80 ans, ayant vécu 18 ans dans un régime fasciste...
Au Portugal, de Salazar.
Au Portugal, dont nous venons de commémorer les 50 ans de la Révolution portugaise, j'ai un peu l'impression que nous vivons dans une société où la déception, le malaise et en même temps le mal-être a pris le pas sur l'espérance. Il faut donner de l'espoir, permettre à nous tous de dépasser nos divergences, parce que ce qui est essentiel pour nous, c'est l'unité. Ce n'est pas l'unité à tout prix, mais c'est l'unité qui, si on n'est pas uni, on ne pourra pas gagner. Et si on n'est pas uni, on n'est pas audible. Je pense que dans la lutte contre l'extrême droite, ce qui est essentiel, c'est que nous puissions nous unir. En 1936, la Ligue des droits de l'homme avait proposé effectivement un programme d'unité nationale, et ça a permis effectivement de créer une respiration démocratique qui a été balayée à partir de 1938-1939, par ce qui s'est passé après. Mais je pense que dans des moments de crise, il faut que l'ensemble des forces progressistes, partis politiques, organisations syndicales, associations et autres, puissent effectivement créer les conditions d'une unité et en même temps créer les conditions d'une communication et d'une relation, être à l'écoute du peuple, parce que je pense on a perdu une partie de la confiance des castes populaires. Et ce qui a aujourd'hui fragilisé la gauche et les mouvements progressistes, c'est cette rupture, cet éloignement des quartiers populaires et des classes populaires, parce qu'on ne pourra pas construire l'unité, on ne pourra pas construire une alternance en faisant abstraction de ce qui est et ce qui doit être le rôle des classes populaires dans cette conquête des libertés.
Alors, on va revenir sur tout ça, Manuel. Peut-être avant, revenir quand même sur ce qui vous alerte. Tu en as dit un mot, cette montée de l'extrême droite. En 2017, en 2022, Marine Le Pen est arrivée au second tour de l'élection présidentielle. Le Rassemblement national est aujourd'hui perçu médiatiquement comme une des principales forces politique, la parole de ses représentants s'est banalisée, est devenue omniprésente dans les médias, la liste RN est créditée de plus de 30% des intentions de vote aux prochaines élections européennes. Samedi dernier, il y avait 600 militants d'extrême droite néo-nazis dans les rues de Paris qui défilaient. On pourrait aussi citer les nombreuses attaques de militants d'extrême droite contre des collectifs de gauche, à Bordeaux comme ailleurs en France, qui ont eu lieu ces derniers mois. Tout ça fait qu'on peut vite avoir l'impression d'une montée irrépressible à la fois de l'extrême droite et de ses mouvements les plus violents et fascisants, et qu'on peut vite avoir très peur de tout ça. Je voulais vous demander ce que vous, à la LDH, vous reteniez de tout ça, comment vous analysiez tout ça, et qu'est-ce que vous identifiez? Est-ce que vous aussi, vous avez peur? Et est-ce qu'à un moment, il ne faut pas dire aussi, quand on a peur, même si c'est un élément sans doute sensible de le reconnaître, comment vous analysez un petit peu tout ça, Manuel? Et puis je salue Pierre-Antoine Cazot qui vient d'arriver. Bonjour Pierre-Antoine.
Bonjour Baptiste.
Tu es co-président de la Ligue des droits de l'homme de Bordeaux et membre du bureau national, c'est ça?
Non, du comité national.
Du comité national. Qui veut répondre là-dessus, Manuel?
Je pense que, d'abord, en rectificative, il n'y a pas des néo-nazis, il y a des nazis tout court. Nous assistons aujourd'hui, en France, en Europe et dans d'autres pays, à une émergence des forces d'extrême droite qui sont les héritiers de nazis. Ce n'est pas des néo-nazis, c'est des nazis tout court. Il faut appeler les choses par leur nom. Il ne faut pas avoir peur. Quand on est des démocrates, Il ne faut pas avoir peur. Il faut être vigilant. Il faut être conscient. La peur nous tétanise. Il faut que nous puissions dépasser notre peur, avoir confiance en nous et avoir confiance dans le peuple, avoir confiance dans la démocratie et dans un état de droit. Et moi, je pense que c'est ça l'essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, ou depuis quelques années, nous avons perdu une grande partie des classes populaires. L'abstention, qui est un drame pour la démocratie, fait qu'un certain nombre d'hommes et de femmes dans notre pays qui souffrent n'ont plus confiance et s'abstiennent. Et l'abstention donne une force inimaginable à l'extrême droite. Et donc, c'est effectivement, il faut prendre conscience de ça, investir les quartiers populaires, assumer nos responsabilités et être en capacité de sortir d'entre-soi. Être en capacité d'aller à la rencontre des gens, pouvoir communiquer avec eux. C'est pour ça que nous avons initié ici à Bordeaux ces villages des droits et ces villages associatifs de samedi prochain pour que nous puissions investir la place publique, ne pas lâcher la place publique à l'extrême droite. Eux, ils sont offensifs. Il faut que nous, on prenne notre place.
Pierre-Antoine Cazot, comment toi tu réagis? Qu'est-ce que tu analyses? Quel peut-être danger tu vois et quel est ton état d'esprit face à tout ça?
Ouais, déjà, je rejoins Manuel complètement sur son analyse. Il faut d'abord prendre conscience que ce sont nos institutions démocratiques qui sont le meilleur rempart contre les violences et les dangers que représente l'extrême droite, et en particulier celle qui vient d'être évoquée et qui effectivement peut non seulement commettre des violences, mais avoir des projets assez graves. Je veux dire, si on regarde les risques d'attentats en France déjoués par l'extrême droite, sont extrêmement nombreux. Pas qu'en France d'ailleurs, hein. C'est un phénomène qui est mondial. On le retrouve partout en Europe, on le retrouve aux États-Unis, on le retrouve en Amérique latine, etc. Mmh. Donc il y a un vrai danger. Et il y a aussi effectivement une forme de violence qui est en train de se décomplexer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une parole qui est en train de se décomplexer totalement, et qui est liée aussi à des médias qui alimentent ce sujet, et parfois de manière un petit peu moins caricaturale ou disproportionnée que les nazis. Enfin, je suis pas sûr que ce soit proportionné, mais des chaînes comme CNews, tout l'Empire Bolloré, effectivement, déversent des idées d'extrême droite qui font que les plus radicaux d'entre eux se sentent d'autant plus légitimes à prendre leur position que le spectre du débat politique se décale un peu à l'extrême droite. Et je pense qu'effectivement, il faut tenir la ligne des principes et des valeurs qui sont les nôtres, pour nous républicaines, et puis des défenses des droits, des droits et des libertés.
Félicien Faury, tu nous écoutes depuis tout à l'heure la discussion. Je rappelle que tu es sociologue et politiste, auteur d'une enquête sur la normalisation de l'extrême droite et de ses électeurs, les électeurs ordinaires, ça s'appelle. Je voulais quand même, avant de te faire préciser ce que tu as analysé auprès de ces électeurs et qui est dans ton livre, toi qui es beaucoup sollicité ces derniers temps suite à ce bouquin dans les médias, quel regard tu portes sur ces réactions, sur cette actualité de l'extrême droite et ce qu'elle déclenche comme réaction chez les non-électeurs de l'extrême droite, Félicien Faury?
Oui, ben merci pour ta question. Ce que j'ai pu remarquer avant tout, en fait, sur mon terrain, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur donc, ces électeurs qui votent ou ont déjà voté pour le Rassemblement National. Mais parce que j'habitais là-bas, donc il m'est aussi arrivé de discuter avec des personnes de gauche, ou en tout cas qui sont hostiles à l'extrême droite, à ses idées, au Rassemblement National. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait deux sentiments, on pourrait dire. C'est premièrement un certain sentiment d'impuissance pour les personnes qui se situent à gauche et qui sont hostiles en fait au Rassemblement National, mais qui, dans les territoires du Sud-Est dans lesquels j'ai travaillé, se sentent assez seuls. Mais même en termes de rapport de force électoraux, en fait, c'est des territoires où la gauche est très faible, et y compris en termes de structure associative, syndicale, etc. Où voilà, on a l'impression que y a un certain fatalisme qui peut s'installer. Et à côté de l'impuissance, il y a aussi quelque chose qu'il faut regarder en face, c'est de l'indifférence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont habitués en fait au fait que le RN fait partie du paysage politique local et national, et qui sont très déçus aussi de la gauche et de la droite, et qui donc ont une défiance et une distance vis-à-vis du champ politique qui est très forte. Et donc voilà, le RN, est-ce que ça va faire une différence fondamentale? Et il y a voilà ce sentiment de bon, de toute façon ça me regarde pas, c'est pas mon monde, la politique ça m'intéresse pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et qui se traduit effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, par de l'abstention. Et l'abstention à gauche est effectivement, en termes électoraux, ce qui favorise considérablement le Rassemblement national, y compris et notamment même pour des élections intermédiaires du type des élections européennes.
Alors, on a un peu commencé à le dire, il y a une normalisation médiatique, une évolution aussi du champ politique avec la diminution de la droite classique, la place qu'a pris le macronisme, qui peut expliquer un peu l'évolution de l'extrême droite. Mais si on s'intéresse aux électeurs, ce que tu as fait, Félicien, qu'est-ce qui, d'après toi et d'après ton enquête, a rendu le fait de voter pour le Rassemblement national ou pour l'extrême droite en général un geste normal, acceptable, banal, Félicien ?
Oui, en fait, il faut à chaque fois situer le propos, c'est-à-dire que le vote RN reste un vote illégitime dans une grande partie encore de la société. Mais c'est vrai qu'il y a certains groupes sociaux concrets, certains espaces locaux où le RN, en fait, devient un vote banal, légitime, voire valorisé dans certains cas. Ce qui a été, me semble-t-il, assez frappant sur mon terrain, c'est l'installation de formes de consensus locaux sur ce qui est normal ou non, ce qui pose problème, sur ceux qui posent problème aussi, c'est-à-dire voilà, il y a aussi une certaine forme de racisme ordinaire qui se déploie sans frein en fait et sans contre-discours. Ça me paraît très important, cette idée de voilà, il y a des énoncés, il y a des discours qui peuvent se diffuser sans contestation locale dans les conversations ordinaires. Et tout ça, me semble-t-il, c'est ce qui vient légitimer en partie cette normalisation qui voilà, qui est pas seulement politique ou médiatique, même si c'est très important de le mentionner, mais qui se joue aussi dans l'ordinaire, dans les conversations communes et dans les espaces locaux, en tout cas situés socialement et géographiquement.
Qu'est-ce qui permet ça justement ? Est-ce que c'est le fait que il y a une sorte d'effet de seuil, et plus il y a d'électeurs ou de sympathisants, plus ça favorise ces espaces locaux et donc qu'il y ait à nouveau de nouveaux électeurs ou sympathisants ? Est-ce qu'il y a des éléments plus stratégiques de la part de l'extrême droite qui ont été d'être présents dans ces lieux-là dont tu parles, Félicien, Fauri ?
Oui, il y a deux choses. Effectivement, c'est quelque chose d'assez frappant, c'est qu'il y a une forme d'effet de boucle. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, il y a le sentiment que le vote RN, c'est une option de plus en plus légitime, mais aussi de plus en plus partagée. C'est-à-dire qu'on me dit, une phrase que j'ai beaucoup entendue, c'est, vous savez, ici, tout le monde vote Marine. Ici, ce que je vous dis, tout le monde vous le dira. Autour de moi, personne n'a voté Emmanuel Macron au second tour de 2022. Et ça, en fait, ça permet de légitimer par le nombre le vote RN, qui a été souvent stigmatisé, qui était considéré comme un vote honteux pendant longtemps. Mais là, étant donné qu'on voit les scores électoraux, qu'autour de soi, beaucoup de personnes ont déjà voté, donc encore une fois, Marine Le Pen qui appelait par son prénom, en fait, du coup, il y a un effet d'auto-entretien, en quelque sorte, de on a l'impression que ça vote beaucoup, donc on est légitime à voter pour ce parti, y compris au niveau local, et ça entretient les scores. Et juste sur la question peut-être de la normalisation, il y a une stratégie de normalisation du RN, mais qui, ça me semble important de citer que c'est pas un phénomène nouveau du tout. C'est-à-dire qu'on le date souvent de l'arrivée de Marine Le Pen en 2011, mais en fait, depuis sa création, le RN met en place cette stratégie de normalisation, et même on pourrait dire qu'il a été créé pour ça, parce qu'en fait, c'est un parti qui a été créé par un groupuscule fasciste, donc Ordre Nouveau, en 1972. Et le but de la création de ce parti, c'était justement d'offrir une façade légale, légitime, pour notamment se présenter aux élections et pour diffuser les idées d'extrême droite de manière respectable au sein de l'espace public, du champ politique, de l'espace médiatique. Donc en fait, la raison d'être dès le départ de ce parti a été de cette normalisation des idées d'extrême droite, c'est-à-dire sa banalisation et une exposition médiatique et politique supérieure de ces idées. Et force est de constater que ça n'a cessé d'être nourri depuis.
Juste avant de faire réagir Manuel Dias de la LDH, tout à l'heure Manuel parlait de la question des quartiers populaires, des classes populaires. Il me semble, Félicien, que tu insistes aussi sur le fait qu'il y a cette question des inégalités de classe et de quel discours porter pour les personnes des classes populaires sur cette question des inégalités de classe, mais qu'il y a aussi la question des inégalités ethno-raciales, en gros du racisme, chez les électeurs de l'extrême droite du Rassemblement national, qui est extrêmement prégnante, en tout cas là où toi tu as enquêté, c'est-à-dire notamment chez les électeurs du sud-est de la France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et de l'importance de cette question du racisme dans ces choix électoraux aujourd'hui?
Oui, ça c'est un... Après, je pense que moi j'ai pu l'observer dans le sud-est, mais il y a en fait là beaucoup de statistiques électorales qui montrent que c'est en fait ce qui caractérise et ce qui distingue l'ensemble de l'électorat du RN. Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec lucidité. Peut-être un chiffre. En 2022, de manière très récente, le CEVIPOF, il avait posé une question de « Pensez-vous que la plupart des immigrés ne partagent pas les valeurs de notre pays ?» Il y avait 92% de l'électorat RN qui répondait que oui, selon les personnes interrogées. Ça descend à 70% pour l'électorat de droite. Donc, moi, si vous voulez, je pars de ça, en fait, d'un résultat qui est assez connu, et j'essaie de vous montrer comment ça se passe concrètement, comment ça se déploie et comment c'est autant entretenu et légitimé. Et par contre, sur la question des inégalités ethno-raciales, il faut ne pas se raconter l'histoire et bien voir que les électeurs du RN, dans leur majorité, sont du bon côté des frontières raciales, si je puis dire, qui traversent encore la société française. Et par contre, du point de vue des inégalités de classe, ce sont les personnes qui sont encore actuellement davantage dans une position dominée. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de l'éloignement de la gauche des classes populaires, en tout cas des classes populaires blanches, avec cette idée de distance sociale qui, moi, revient beaucoup, en fait, dans les entretiens. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée que la gauche, par tout un ensemble de prises de position, mais aussi de manière de faire, manière d'être, manière de vivre, manière de parler, en fait, font partie d'un monde qu'on estime distant, en fait, de son propre monde et de ses propres manières de faire et de vivre. Et ça, cette distance sociale, effectivement, elle doit être travaillée, elle doit être cassée avec l'investissement dans les territoires populaires par les associations, les syndicats, les partis politiques. Et aussi, il me semble, c'est important en termes de recrutement associatif au sein des partis politiques, au sein des syndicats, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de sélection sociale trop importante à l'entrée de ces structures.
Manuel Dias de la LDH, tu voulais réagir à tout ça?
Moi, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Je pense que l'analyse est juste. Maintenant, il faut effectivement aller passer du constat à l'action et passer du constat de la peur à l'action de terrain. Mais je voudrais également rappeler deux choses. C'est de dire que nous assistons depuis au moins 10 ans, au fait que certains médias puissants banalisent les idées du Front National. Donc c'est comme ça, c'est un élément constitutif de la démocratie. Alors que ces partis, et la plupart des gens qui constituent ces partis, sont véritablement les héritiers du nazisme et les héritiers effectivement du fascisme. Moi qui ai vécu pendant 18 ans dans un pays fasciste, je peux vous dire ce que ça veut dire souffrir dans sa peau d'être face à des gens comme ça. Parce qu'eux, ils sont là effectivement pour vous endormir et ensuite ils sont là pour vous détruire. On vous endort pour vous détruire. Avec ces gens-là, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'avenir. Il faut en être conscient et prendre ses responsabilités. La deuxième chose importante qui me semble nécessaire à prendre conscience aujourd'hui, c'est la nécessité pour nous, les forces progressistes, de dépasser effectivement nos conflits internes, notre enfermement sur nous-mêmes, notre quant à soi. Aller à la rencontre de l'autre, ça veut dire qu'on est ouvert au dialogue et qu'on ne va pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Les gens ont besoin d'être écoutés. Aujourd'hui, dans notre société, ce qui manque, c'est l'écoute. Ce qui manque, c'est l'empathie. Ce qui manque, c'est cette capacité que nous avons perdue d'être présents là où les gens vivent leur quotidien. Nous avons effectivement abandonné on a laissé soit à l'abstention, soit à l'extrême droite, des pans entiers de la société. Comment voulez-vous que dans une situation comme ça, nous soyons encore en démocratie ?
Pierre-Antoine Cazot.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis j'ajouterais que sur le plan politique, l'État, depuis quelques années, et les personnes qui ont été au pouvoir ont aussi contribué à banaliser certaines idées d'extrême droite. Ça a commencé avec la proposition de réforme constitutionnelle qui n'a pas abouti de Manuel Valls sur la déchéance de nationalité. Ça a continué avec diverses lois dont l'aboutissement a été la loi Asile et Immigration, où là on fait de l'émigré en fait le bouc émissaire. Or, on se trouve dans une situation politique et mondiale qui est extrêmement compliquée, puisqu'on doit gérer à la fois une crise géopolitique généralisée et la crise climatique. Donc, il y a une angoisse des gens, et l'extrême droite apporte une réponse simpliste en trouvant des boucs émissaires à tous leurs problèmes. Et effectivement, il faut une réponse politique en face qui soit à la hauteur. Et effectivement, on ne peut pas juste balayer l'extrême droite, ce serait juste la colère. Non, il y a ce ressort de l'explication du bouc émissaire et de la xénophobie. Elle est présente, mais elle peut être renversée justement en apportant des offres politiques. Ça, c'est pas notre rôle à nous, LDH, de le faire. Mais en revanche, c'est aux organisations politiques d'apporter un programme, un projet, une vision de la société qui puisse faire sens. Et puis qui se réalise concrètement, parce qu'il ne s'agit plus d'avoir seulement des grands mots. Et ce que les gens ont aussi vu ces dernières années, c'est que des projets politiques, des idées, il y en a, et puis la réalisation, elle est difficile. Il faut aussi que ça se traduise concrètement dans les politiques publiques.
On va revenir sur tout ça et sur vos appels ou propositions à la LDH. Félicien, je voulais te poser une question sur Manuel parlait de ce que c'est de vivre sous un régime nazi autoritaire. Quel lien il peut y avoir entre voter pour le Rassemblement National, être militant du Rassemblement National et être un militant nazi, comme le disait Manuel, qui va défiler, qui va s'en prendre à des orgas de gauche, faire des actions violentes dans l'espace public. Est-ce que c'est un continuum, tout ça ? Est-ce que tu as pu observer chez les électeurs qu'il y avait ces liens-là qui se font ? Ou bien il y a quand même encore des frontières entre ces différentes positions, Félicien ?
Ça dépend de comment on aborde la question. En termes de famille politique, je pense qu'il y a des continuums d'idées, si vous voulez, entre ce qu'on appelle en sciences politiques cette famille qui est l'extrême droite, le nationalisme autoritaire, peu importe comment on l'appelle. Mais là, pour le coup, il y a une continuité. Il y a même, ce qu'ont montré beaucoup de recherches, des porosités entre des groupuscules d'extrême droite et les partis politiques. C'est pas du tout des choses qui sont étanches. Par contre, du point de vue des personnes que moi j'ai rencontrées, non, on n'est pas du tout dans ces profils. Mais tout simplement, mais ça, c'est pas que à l'extrême droite, c'est de manière générale, c'est qu'en fait, c'est très différent de voter de temps à autre pour un parti parce qu'on y croit plus ou moins. Mais en fait, encore une fois, c'est des personnes qui sont assez éloignées en fait de la chose politique et il y a une toute grande différence entre ça et militer, avoir un engagement très soutenu dans un parti politique ou dans des trajectoires militantes violentes. Mais ce qui veut dire, du coup, et ça a été un peu dit tout à l'heure, et ça me semble très important, que s'agissant du vote, effectivement, rien n'est irréversible. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que les personnes peuvent activer électoralement, politiquement, certains affects, certains goûts et dégoûts sociaux qui les animent en un temps donné. Mais en fait, c'est complètement possible de créer des conditions pour que d'autres affects qui nous traversent aussi soient activés au moment d'un vote. Donc c'est très important de dire que le vote RN peut être par exemple animé par des affects xénophobes ou islamophobes, ou que sais-je, mais que c'est le vote, c'est-à-dire que les individus, eux, ont plusieurs potentialités en eux, et il y a d'autres choses que l'on peut activer au cours de l'élection et plus largement dans les démarches de politisation.
Manuel, c'est ça, du coup, l'enjeu à gauche ?
Moi, je partage ce qu'il dit Félicien et en même temps les constats qu'il fait. Par contre, il y a une question qui est une question prégnante. Une partie de l'opinion publique française pense qu'effectivement, les travailleurs étrangers, ou les étrangers qui sont en France, sont contre les valeurs de la République. Ce qui est complètement une hérésie. Parce que chaque fois que la France a été en danger, en 14-18, en 39-45, les étrangers ont été les premiers à prendre les armes pour défendre la République et les valeurs démocratiques. Ils ont payé le sang pour que nous puissions être libres. C'est les étrangers, entre 1940 et 1945, 26% des résistants étaient des étrangers. Ça, c'est un fait avéré. On a fait rentrer au Panthéon national Manoukian avec son groupe, et c'était plus que tous des métèques. C'est-à-dire que chaque fois que la France, chaque fois que les valeurs fondamentales de la République et de la démocratie ont été mises en question, il n'y avait pas de nationalité, il y avait des hommes et des femmes qui avaient des convictions et des valeurs, qui se sont mis ensemble pour défendre l'essentiel. Et à ces moments-là, on voit bien où ils étaient les uns et les autres. C'est pour ça que le travail d'histoire, le travail de compréhension de ces questions est nécessaire pour démontrer à nous concitoyens qui, effectivement, stigmatisent et qui, à quelque part, condamnent les travailleurs étrangers ou les étrangers comme étant des ennemis de la patrie. La plupart du temps, les ennemis de la patrie, c'est ceux, aujourd'hui, qui se prétendent toutes les vertus du monde. Donc, soyons critiques et vigilants et apprenons à une nouvelle génération notre histoire. Si on ne comprend pas l'histoire, si on n'a pas les éléments de l'analyse historique, il y a un certain nombre de choses qui nous échappent et on a abandonné dans la plupart de nos organisations, mais surtout à l'éducation nationale, le travail d'information, le travail d'éducation à la culture, à l'histoire et à la mémoire.
Félicien, est-ce que justement ce discours-là, il porte, est-ce qu'il marche pour faire baisser ce vote d'extrême droite, ou est-ce que, comme tu disais un peu tout à l'heure, ça passe aussi par plus par des questions d'interconnaissance, etc. Et est-ce que le privilège blanc qui anime aussi et qui produit le racisme et la conscience de ce privilège-là ethno-racial, il n'est pas plus fort que le discours dont parle Manuel?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. C'est qu'en fait, il y a premièrement, effectivement, il faut agir sur les structures, c'est-à-dire sur les inégalités de classe et sur les inégalités ethno-raciales. Et j'allais dire pas seulement pour faire baisser le RN, mais en fait, de manière générale, ça peut être un objectif politique.
Évidemment.
La lutte contre l'extrême droite ne doit pas être le seul étalon. Mais par contre, quand même, je pense qu'il y a un travail de pédagogie et de contre-discours à mettre en place. Donc, ça a été dit un peu sur les valeurs, etc. Et moi, par exemple, un discours que je repère beaucoup, c'est l'équation immigré égale chômeur, par exemple, qui est assez constante et qui va avec des stéréotypes de fainéantise, etc. Mais en fait, en plus, dans le Sud-Est, en fait, le travail saisonnier, par exemple, le travail dans le BTP ou le travail dans tout ce qui est l'économie résidentielle, le care, les personnes qui s'occupent des personnes âgées, etc., c'est une économie qui est très, très importante, qui est vitale à ce territoire, et où la main-d'œuvre est, de façon très importante, une main-d'œuvre immigrée et ou étrangère. Et en fait, il y a une forme d'invisibilisation de ce travail-là, et qui vient nourrir cette équation, comme je l'ai dit, immigré égale chômeur, qui du coup anime tout un ensemble de ressentiments, notamment de ressentiments fiscaux, qui nourrit très fortement la préférence pour l'extrême droite et pour le Rassemblement national. Donc je pense qu'il y a quand même un travail qui a déjà été fait, mais qui doit être entretenu assez inlassablement, j'allais dire, parce que c'est des discours aussi qui sont en face, c'est des discours qui sont très récurrents. Donc il faut pas lâcher tout de même effectivement ce travail de cette politique de la vérité en quelque sorte, et ce travail de pédagogie pour justement que ça infuse dans les discours et pour que ce type de mise en équivalence puisse être contredite dans les interactions et dans les conversations. Donc je pense qu'il faut faut agir sur les structures, sur les conditions sociales et matérielles, et il faut tout de même aussi pas lâcher la question du combat culturel, du combat pédagogique, éducatif.
Alors, pour revenir à la LDH, vous avez fait partie ce lundi des signataires d'un appel qui est paru dans le journal Libération. Ne choisissez pas l'extrême droite pour exprimer votre colère, il était titré. Et vous écriviez notamment ceci, le danger grandit aux portes d'un avenir proche. Le danger que triomphe la haine de l'autre, le repli identitaire, le racisme, l'affrontement de tous contre tous. Nous, 70 organisations au cœur de la société civile, avons décidé de proposer aujourd'hui, face à l'extrême droite et aux porteurs de haine, d'injustice, et de discrimination, une mobilisation forte et durable contre les inégalités sociales et territoriales, parce que là sont les vrais enjeux. Peut-être deux questions, Manuel et Pierre-Antoine. D'abord sur le cadre, sur cette question de l'unité. On pouvait lire aussi dans Le Monde qu'il y avait des discussions à un cadre unitaire mêlant des syndicats, dont la CGT, le syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme, des assos, des partis de gauche qui s'étaient relancés ces dernières semaines. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça se parle ? Est-ce que ça discute ? Est-ce que ça avance entre toutes ces structures-là ? Et puis après, une question sur comment faire, qu'on a déjà commencé à aborder, Pierre-Antoine.
Oui, ça se parle et je crois que toutes les organisations commencent à avoir conscience de la gravité de la situation du moment, sans doute aussi des besoins, et que on se dit que peut-être les organisations politiques, syndicales, associatives ont un rôle à jouer pour mobiliser. Il y a des mobilisations qui se créent depuis des années sur le terrain, dans les manifestations qui font qu'il y a une unité qui peut être trouvée, il y a un rassemblement, une unité, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, il y a des points de convergence, des points de rassemblement, des points de ralliement, et ça ne se concrétise pas du point de vue politique. Je crois que c'est aussi à la société civile, à un moment donné, de dire qu'il va falloir avancer. Alors, effectivement, il y a des discussions qui se font. On travaille beaucoup entre organisations, etc. Il y a un dialogue qui est de plus en plus important. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce sera un des enjeux de notre congrès. Et on espère pouvoir ici en tirer quelque chose. En tout cas, ce sera aussi l'une des ambitions de ce congrès, mais ça, il faudra attendre lundi pour en savoir plus.
C'est quoi l'enjeu, justement ? C'est jusqu'où on va dans les discussions, dans les alliances ?
Quelle est la place et le rôle qu'on veut se donner aussi pour bouger et contribuer à ce qu'il y ait des alternatives qui se créent. Voilà. Après, les modalités, etc., ça, il faudra attendre lundi pour en savoir plus.
Manuel, tu rappelais tout à l'heure qu'en 1936, la LDH avait joué un rôle dans justement l'alliance, le regroupement des forces de gauche. C'est ça qu'il faudrait faire aussi aujourd'hui, d'après toi ?
Je pense qu'il faut effectivement s'inspirer de ça. Nous pouvons également dire qu'à l'occasion du mouvement contre la réforme des retraites, il y a eu une unité syndicale qui a dépassé les organisations syndicales, qui a également touché une partie de la société civile. Et nous avons été tous unis pour ces combats essentiels. Nous avons été effectivement massacrés par le gouvernement, parce que le gouvernement actuel fait aussi le jeu de l'extrême droite. Ne pas être à l'écoute des revendications, ne pas être à l'écoute des corps intermédiaires, ne pas être à l'écoute de ce que constitue la nation. Parce que qu'est-ce qui constitue la nation ? Ce n'est pas les gens à Paris qui nous gouvernent, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui font société ensemble. Et cette faire société ensemble, s'il y a un endroit dans notre pays où il existe, même s'il a perdu un peu de l'importance, c'est dans le monde associatif. C'est dans les associations. C'est dans cet espace démocratique, dans cet espace, effectivement, où les hommes et les femmes, ensemble, essayent de réfléchir comment créer l'unité. Et le monde associatif et la société civile sont des véritables pépinières de ce que j'appellerais l'alternance démocratique et la création de ce que j'appellerais un état de droit et un état de liberté.
Je crois donc c'est lundi que vont se passer toutes ces discussions-là. Notamment, il y aura la présence, on m'a dit, de Sophie Binet, la secrétaire de la CGT.
Alors, ce sera pas Sophie Binet en personne, mais ce sera quelqu'un. Enfin, oui, il y aura des représentants d'organisations diverses. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que on voit des des conflits politiques parfois qui font que certains donnent un spectacle politique pas très joyeux. Et l'avantage, c'est que nous autres associations, syndicats, nous avons l'avantage de ne pas être en compétition, en concurrence. Et du coup, on n'a pas de difficulté de dialogue entre nous. Les échanges sont bons. On peut avancer comme ça. Donc, je pense que c'est aussi peut-être un biais qui va être nécessaire parce que là, on est quand même un peu. Je parlerai à titre personnel, mais un peu affligé par ce qui se passe dans le débat public.
Félicien Faury, peut-être un mot de conclusion, de réaction ou de conseil, de mise en garde ou de choses, si tu avais une chose à transmettre à nos amis et aux discussions qui vont avoir lieu lundi sur toutes ces questions, Félicien Faury.
Je suis très peu doué pour donner des leçons. Peut-être deux choses, c'est premièrement, la politique, c'est pas que les élections, c'est-à-dire ce que moi j'ai essayé de montrer, c'est que ça se joue aussi effectivement dans le quotidien, dans la plantation locale. Mais par contre, les élections comptent aussi, notamment dans notre régime actuel de la Ve République, les élections présidentielles, même au niveau plus local. Moi, ce que je remarque, c'est effectivement, lorsque la gauche est faible, mathématiquement, si vous voulez, la perspective doit forcément être unitaire. Et en fait, y compris pour les électeurs, souvent, il y a une famille de gauche qui est envisagée. Et en fait, ça, face à l'extrême droite et à Macron ou ses suites, en fait, d'un point de vue strictement électoral, si on additionne les forces de gauche, il faut forcément que ça soit unitaire et qu'il y ait une seule personne un seul camp rassemblé qui se présente aux élections. C'est plutôt le politiste qui parle et qui regarde les rapports de forces électoraux depuis 10 ans.
Merci beaucoup Félicien Faury. Je rappelle donc le titre de ton livre, ton enquête sur la normalisation de l'extrême droite. Ça s'appelle « Des électeurs ordinaires » et c'est paru au Seuil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Peut-être juste une dernière question pour toi Pierre-Antoine, puisque tu n'étais pas là au tout début. On parlait de la LDH, de comment elle va et de ce congrès et de son renouvellement. Je disais une asso qui a 126 ans d'existence, qui doit perpétuellement, j'imagine, se questionner pour évoluer, pour rester aussi en lien avec les débats du moment. On l'a vu aujourd'hui, il y a aussi des choses fondamentales qui restent et qui sont des combats de tout temps. Comment est-ce que les questions de féminisme, de minorité de genre, de droit des minorités de genre, elles sont présentes aussi et elles vont, j'imagine, irriguer ce congrès et marquer l'avancée, la projection de la LDH dans les années à venir, Pierre-Antoine ?
Évidemment, on est une association généraliste, donc on travaille sur toutes les questions, on essaye de traverser ces questions ensemble et en commun. Et il se trouve que je suis co-responsable du groupe de travail LGBTI au niveau national, donc on a un groupe de travail, on fait des séminaires, et effectivement on essaye de faire porter la parole des personnes LGBTI, des minorités de genre et d'orientation sexuelle. C'est un combat qu'on mène aussi, on n'est pas toujours à l'avancée, parce qu'en réalité on n'est pas une association spécialisée, que toutes les associations spécialisées, mais dans chacun des domaines, est toujours un petit peu plus en avance sans doute que nous, mais pour autant, et c'est la force de notre association, c'est d'essayer de questionner toutes les sujets ensemble, de les penser ensemble pour essayer de faire du sens. Et oui, l'association, elle est ancienne, et pour autant, elle a montré, sa capacité à clairement prendre en considération toutes les évolutions de la société, tout en gardant les principes fondamentaux. Et en réalité, c'est d'ailleurs... une bonne chose, c'est que la question des droits, l'approche par les droits, nous permet de résoudre beaucoup des conflits qui, dans le débat public, sont compliqués. Quand on l'approche par les droits, c'est beaucoup plus simple.
Merci beaucoup Pierre-Antoine Cazot, Manuel Diaz-Vas de la Ligue des Droits de l'Homme. Rendez-vous vendredi soir à l'Halle des Douves pour le débat sur la démocratie. Rendez-vous samedi, place de la Victoire, pour le village des Libertés.